brutal.
Je lui explique un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Chaque semaine, le père Domergue se rend dans les magasins de disques pour faire ses courses. Il achète toutes les nouveautés de musique black metal qui lui paraissent suspectes. Son but, traquer les attaques antichrétiennes et tout ce qui lui paraît blasphématoire.
C'est malade.
C'est moi ou il y a une ambiance de merde?
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Kill et Vilaine sur Syllab, votre émission de métal hebdomadaire. Il est 21h, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode avec un petit peu moins de monde en studio que la dernière fois. On peut pas toujours être 6 autour de la table.
On peut se reposer aussi.
J'allais dire que t'étais là malgré tout. Comment tu vas Pierre?
Ça va très bien et toi?
Ouais, ça va très bien, encore fidèle au poste.
Toujours. Dans l'attente de Tristan également.
On l'attend.
Peut-être qu'un jour il reviendra.
Ah mais tous les jours par la fenêtre de Syllab, je regarde, je l'attends.
C'est trop triste, je vois trop les.
Tu vois la petite scène avec la musique triste, le zoom, le noir et blanc.
Je te vois avec les deux mains à travers la vitre qui est en train de regarder au loin. Et en fait, il y a une sorte de projection où tu dézoomes à travers la vitre.
Oui.
Il y a personne.
Ah, il y a une tempête de neige dehors. Il pleut, le temps est dégueulasse. Alors, ce soir, ce sera une émission donc pour revenir dans le vif du sujet, plus simple, mais plutôt cool. Je vous avais parlé la semaine dernière du fait que si j'avais le temps, je développerais un sujet sur le métal et sur le cinéma. Et je suis ravie de vous annoncer que cette semaine, j'ai pris le temps donc d'aller faire mes petites recherches et de vous écrire ce petit dossier principal que je vous présente ce soir, que j'ai appelé, pour rester dans les noms un peu, je ne sais pas comment on peut définir ça, en tout cas j'ai appelé ça le fabuleux destin d'Amélie Breakdown. Qu'est-ce que t'en penses Pierre?
Moi j'aime bien, en vrai je valide.
En vrai, je le trouve très très drôle.
Toujours des beaux jeux de mots, donc je valide.
Ouais, et je le trouvais chouette. On va aussi faire donc une petite review d'album. On va revenir donc sur l'album Oni 2 de Darko US, sorti donc il y a tout pile une semaine. Et c'est un groupe dont je vous avais parlé il y a quelques semaines dans une playlist. Et donc, c'était l'occasion parfaite d'en reparler. Ça me donne une excuse pour le faire. Et puis en plus, l'album est absolument génial. Donc, c'est super. On traitera également des festivals, on dit
des
quoi?
Festivals.
J'ai toujours un doute. Est-ce qu'on dit vraiment festivals?
Non.
Oh, putain.
Mais en vrai, je préfère dire ça.
C'est mais comme ouais, ça paraît cisale, tellement plus logique.
Un cisale des ciseaux, tu vois?
Hein? Quoi?
Non, mais ça me fait rire de dire ça.
Des cisales?
Ouais, un cisale. Non, un cisale.
Oui, des ciseaux, un cisale. Oui, d'accord.
Tu
ouais.
assembles deux cisales,
ça fait un
tu
ciseau.
Mets un petit cloque et ça fait un ciseau. Voilà.
Ah,
un festival des festivals.
Mais moi, je trouve que festival, ça termine, ça c'est tellement plus logique. Et puis, on terminera évidemment avec le fameux galet de saucisse 6-6 parce que on adore jouer ici. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Avant de commencer, quelques petites infos qu'il faut que je vous transmette. Par rapport à la semaine prochaine, principalement, on avait déjà parlé du fait que j'avais prévu de mettre une rediffusion puisque je ne suis pas disponible pour venir. Et puis au final, ça tombe très bien parce qu'il y a une coupure d'électricité dans le bâtiment mardi prochain pendant le créneau de diffusion de l'émission. Et donc, on n'aurait pas pu être en direct dans tous les cas. On va vous rediffuser l'épisode de la semaine dernière, donc avec Death Council, qui était un épisode qui était chaotique, fatigant, mais très très drôle. Donc j'espère que ça vous plaira de pouvoir le redécouvrir ou de le découvrir si jamais vous n'étiez pas là. Et puis la semaine suivante, on pourra revenir ensemble sur le Crazy Fest puisque on vous a fait gagner deux passes, deux jours pour ce festival-là à l'antenne. Et donc c'est le week-end, ce week-end, c'est ce week-end, oh là là, que faut pas que j'y aille la semaine prochaine, ça risque d'être catastrophique. Je serai pas à Rennes de toute façon la semaine prochaine, je risque pas d'y aller. Et puis on reviendra un petit peu sur ce que j'ai pu y voir et sur ce qui s'y est passé. Voilà. On commence avec le Blind Guardian, c'est parti.
Ouais, c'est parti.
Allez, jingle.
Oyez, oyez, gentes dames et gentils damoiseaux.
Hé, hey, toi, viens. T'as entendu la nouvelle ?
On va commencer en parlant donc de deux festivals locaux dont on vous a déjà parlé. Tout d'abord, du Mordel Fest qui se déroulera le samedi 3 octobre prochain à Mordel, qui a enfin dévoilé sa programmation. Je rappelle qu'on avait reçu il y a quelques semaines donc Claudine Do, la présidente de Mordel Prod, qui organise ce festival pour la troisième année consécutive. Elle était venue sur le plateau donc, pour nous parler de cette nouvelle édition, de l'évolution du festival. Et donc là, ils ont enfin dévoilé leur programmation. Et elle est plus que très très chouette. On retrouvera notamment Loco Muerte en tête d'affiche, groupe indiscipliné dans la meilleure définition du terme. Donc on est sur du trash crossover très énergique avec énormément d'influences du hardcore old school, des vibes très suicidal tendencies, agnostic front, etc. Et franchement, c'est un groupe que je recommande beaucoup, énormément, parce que si vous aimez les concerts très physiques et très fun, c'est pile ce dont vous avez besoin. Il y aura également Crop Circle. Tu connais ?
Non, du tout. Mais en fait, je connais le mythe des Crop Circle avec les aliens qui auraient fait ça du coup, sur les plaines en Angleterre.
C'est pas facile à prononcer, hein,
Crop Circle.
Les chaussettes de l'archiduchesse sont telles séchoirs, she say. Voilà. Et donc, pour le coup, moi, je le découvre avec la programmation. Alors, je le découvre avec la programmation que moi, je connaissais déjà sans vouloir me vanter, mais enfin, voilà. Ils existent depuis 2023. C'est du rock assez énervé, assez nerveux. Ils sont originaires de Rennes, si je ne me trompe pas. Et donc, ça peut être très, très chouette sur scène. J'ai plutôt hâte. Il y aura également un groupe dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans l'émission parce que je les aime énormément. Il s'agit de Soojin. Et un groupe originaire de Laval, mélange.
Et de Rennes aussi, ouais.
Et de Rennes aussi, effectivement, avec un mélange de death mellow, de metal moderne, de metalcore moderne même, et de plein d'influences du metal actuel. Et c'est très efficace, c'est très bien produit. Et moi, j'ai très, très hâte de pouvoir aller voir ça sur scène parce que c'est vraiment un groupe que j'affectionne particulièrement ces derniers mois. Terrible. Et enfin, on retrouvera Enlightened. Groupe que je connaissais pas non plus pour le coup, mais j'ai été écouter quelques morceaux avant l'émission et c'est super intéressant. C'est du metal prog avec des grosses influences stoner, des passages très très groovy, et en concert je pense que ça peut être une excellente surprise. Donc voilà, le Mordel Fest continue en plus de proposer des affiches que je trouve cohérentes, bien construites, avec un tarif qui reste très accessible, une programmation qui est capable de parler autant aux amateurs amatrices de métal extrême qu'aux gens qui préfèrent des choses plus chill, plus prog, plus posées. Et pour moi, c'était important d'en parler parce que c'était le premier événement qu'a couvert Kill et Vilaine de cette saison, et en fait le premier événement qu'on a couvert tout court. Et on avait vraiment reçu un accueil très très chouette de la part du festival. Donc forcément, on est très très content de pouvoir vous dire qu'on sera de retour pour cette troisième édition. Et j'ai très très hâte. On continue avec le Samhain qui dévoile également peu à peu sa programmation. Le festival de musique extrême dont les profits sont reversés à l'école D1 prendra de nouveau place à la Mézière du 22 au 24 octobre prochain et devrait de nouveau faire des ravis. On y retrouvera notamment les Rennais de Corium qui proposent un punk hardcore, crust, old school avec une production plutôt moderne et c'est, j'en ai parlé la semaine dernière de ces trucs old school avec des productions modernes et le fait que j'aimais bien ça. Donc ça va être plutôt chouette. On aura également Belenos, un groupe qu'on ne cite plus dans Kill et Vilaine, puisque leur chanson, j'arrive pas à parler ce soir, ça change. Leur chanson Armorica était notre jingle de Galette Saucisse 6. J'ai très très hâte de pouvoir voir ça sur scène. Gruesome Pledge, un groupe rennais encore qui propose un death crossover plutôt chouette. Et je les découvre avec la prog du Samhain. Ça, franchement, ça peut être plus que chouette. Kavnekadas, j'espère que je le prononce correctement. Groupe rennais, encore une fois, la scène locale est mise en avant, c'est chouette. Donc, groupe de stoner, crust, voilà. Le crust, quand ça crust.
Ça crust.
Voilà. Et puis, le gros, gros nom de l'affiche qui a déjà été dévoilé, c'est Abbas, le projet solo du Norvégien Olve Eikemo, je ne sais pas. Aka Abbas Doom Occulta, anciennement bassiste, guitariste, chanteur. Parfois, à certains moments, à certaines périodes, les trois en même temps. D'Immortal, donc un des rares groupes de Bergen à pas être tombé dans les dérives du black norvégien des années 90. Donc ça fait plaisir de savoir qu'on va pouvoir voir ça. J'ai très très hâte. La billetterie pour le Samhain, elle est d'ores et déjà ouverte. La journée du vendredi est à 39 euros, celle du samedi à 49. Il me semble que c'est les mêmes tarifs que cette année, enfin que l'édition 2025. La soirée du jeudi, comme tous les ans, elle est au chapeau. Et le pass pour les deux journées payantes est à 79. N'hésitez pas donc à réserver vos places dès maintenant. On sait très bien que pour les festivals, réserver très tôt ces places pour leur modèle économique, mais c'est aussi le cas pour les artistes, c'est hyper important. Ça leur permet de se projeter sur les bénéfices qu'ils vont effectuer et puis sur les choses qu'ils vont pouvoir proposer sur place. Et puis en bonus, vous soutenez la scène locale, parce que des groupes rennais, y en a en veux-tu, en voilà cette année, c'est très très chouette. Et puis bah, vous soutenez les écoles D1 aussi, donc que des bons points finalement. On va pouvoir passer maintenant à notre review d'album. Il y a quelques émissions, on avait découvert Congratulations, un des singles du nouvel album de Darko ES. Et à l'époque, j'avais dit que s'il existait une bonne manière de se faire rouler dessus par un rouleau compresseur, ce serait probablement celle-là. Et honnêtement, après avoir écouté Oni 2, je maintiens totalement cette phrase. Darko US, donc c'est le projet composé de Tom Barber et Josh Miller, qu'on connaît aussi tous les deux pour leur travail dans Chelsea Green, et aussi Tom Barber dans Lorna Shore il y a quelques années. Enfin, ils ont été membres de plein de groupes tous les deux, donc la liste est très très longue. Et justement, ce qui est fascinant avec Darko, c'est qu'on sent qu'il y a des éléments de Chelsea Green dedans, mais complètement libérés, comme si c'était un projet qui leur permettait d'aller dans des directions qu'ils n'oseraient pas pousser aussi loin dans leur projet principal. Et le résultat sur Oni 2, c'est un album qui réussit à mélanger des dizaines de choses qui sur le papier n'ont absolument rien à voir ensemble. Du deathcore ultra brutal, des glitches, des passages électroniques, des ambiances industrielles, des moments presque mélancoliques, des breaks complètement absurdes. Et finalement, quand c'est eux qui proposent tout ce mélange, ça paraît logique. Alors évidemment, quand on écoute le disque, il y a ce moment où on se dit « Ouais, fallait oser quand même. » Parce que c'est chargé. C'est agressif en permanence, ça part dans tous les sens, ça change de rythme toutes les 30 secondes. Mais ça passe super bien quand on aime les choses qui tabassent la gueule. Et je pense que ce qui fait fonctionner l'album, c'est qu'on n'est pas juste dans l'expérimentation gratuite, sans qu'il y ait une vraie réflexion derrière, là où certains groupes expérimentaux peuvent parfois donner l'impression d'empiler des idées juste pour surprendre. Je trouve que Darko US réussit à donner un vrai sens à tout ce chaos. Cet album a quelque chose de profondément cynique, c'est vraiment le mot qui me vient en tête quand je l'écoute. Tout paraît froid, clinique, calculé, ça donne presque l'impression d'écouter une expérience de laboratoire qui tourne mal. Il y a un côté très anxiogène dans la production, dans les textures électroniques, dans les glitches omniprésents, dans les voix trafiquées. Et pourtant, l'album reste très vivant. Moi, j'aime énormément la manière dont le groupe utilise les micros accalmis, notamment. Il y a plein de petits ponts plus calmes, des moments où la musique redescend pour laisser un petit moment à l'auditeur pour respirer, pour reprendre son souffle, avant de repartir dans le chaos. Et ça marche super bien parce que ça rend les passages les plus violents encore plus impactants. Puis évidemment, il y a la performance de Tom Barber qui est assez dingue du début à la fin. On savait déjà qu'il était monstrueux dans le deathcore moderne, mais Darko US lui permet vraiment d'explorer énormément de choses vocalement. Il passe de hurlements ultra violents à des passages beaucoup plus robotisés, presque inhumains parfois. Ça participe énormément à l'identité de l'album. Et ce qui est impressionnant, c'est la vitesse aussi à laquelle le groupe avance. Darko US, ça s'est créé pendant le confinement, donc en 2020 et en 2021, ils ont sorti leur premier album. Et depuis, c'est donc aujourd'hui leur sixième. Donc malgré cette productivité énorme, on n'a pas l'impression d'écouter des projets bâclés. Au contraire, chaque sortie pousse un peu plus loin leur univers. Et dans les morceaux qui m'ont le plus marqué sur Oni 2, il y a évidemment Congratulations, qui reste pour moi ce fameux rouleau compresseur absolument merveilleux. Il y a aussi Majora avec Ben Doer, donc le vocaliste de Shadow of Intent, qui est assez monstrueux. Angel Kisses, elle est ultra surprenante parce qu'elle apporte quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus mélancolique au milieu de tout ce chaos. Et puis il y a, je pense, mon petit favori de l'album, qui est Acid Girl Fantasy Club, qui vient le conclure de manière plutôt exceptionnelle, avec une outro presque planante par moment, mais toujours plus ou moins dérangeante, surtout quand on a écouté tout l'album avant. Pour moi, si je dois être honnête, Oni 2, c'est pas un album très très accessible. C'est un disque qui est épuisant, qui est agressif, qui est oppressant. Mais c'est aussi probablement un des projets les plus intéressants et avant-gardistes qu'on puisse entendre actuellement dans le deathcore moderne. Surtout, c'est un album qui réussit à transformer son chaos en véritable identité artistique. Et parce que vous savez bien que j'aime pas vous laisser sur votre faim, on va pouvoir illustrer cet album avec son dernier titre. Je l'ai évoqué pendant cette review, il s'agit d'Acid Girl Fantasy Club. Bonne écoute.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Syllab dans Killeviné. Vous venez d'écouter Acid Girl Fantasy Club de Darko US. Je pense que c'est une des meilleures outro d'albums que j'ai entendu ces derniers temps. Je trouve que quand t'as entendu un album qui est aussi physique et aussi épuisant finir là-dessus, il y a ce moment où tu rouvres les yeux et t'es en mode c'est vraiment, est-ce que ma playlist a changé de mood ou... Non, c'est toujours la même chanson. C'est génial. Et donc, on va pouvoir passer à notre dossier principal. Je vais commencer par faire pas mal de blabla parce qu'il n'y avait pas forcément la place au début pour vous mettre de la musique. Mais je me rattrape plus tard, vous inquiétez pas. Donc, on commence. Donc, on va parler de deux univers qui, à première vue, n'ont pas forcément grand-chose à voir. Le cinéma et le métal. Et pourtant, quand on regarde un petit peu plus près, ce sont deux arts qui partagent énormément de points communs. Ce sont deux univers qui aiment le spectaculaire, le grandiose, l'excès. Deux univers qui aiment raconter des histoires, construire des imaginaires forts, provoquer des émotions intenses. Mais surtout, ce sont deux formes d'art qui cherchent autant à faire vivre quelque chose au public qu'à vivre quelque chose elle-même dans la manière de se construire et de s'exprimer. Puis il y a aussi toute la question de l'esthétique, le visuel, les décors, les personnages, l'ambiance, l'univers autour de l'œuvre. Dans le cinéma comme dans le métal, tout ça occupe une place énorme. Il y a aussi un rapport très particulier au corps, au son, aux sensations, même si évidemment les deux médiums ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Mais justement, c'est peut-être pour ça qu'ils se croisent aussi souvent. Le cinéma utilise régulièrement le métal pour transmettre une forme d'intensité, de violence ou de liberté. Et à l'inverse, le métal emprunte énormément au cinéma, dans son esthétique, dans sa narration, dans sa mise en œuvre, ou même dans sa manière de penser, ses clips et ses univers. Et c'est précisément ces points de rencontre qu'on va explorer aujourd'hui. Alors je préfère prévenir, je suis beaucoup plus calée en musique qu'en cinéma. Ma culture métal, elle est quand même un petit peu plus solide que ma culture cinématographique, ça fait aucun doute. Justement, je trouvais ça assez intéressant d'aller explorer un terrain que je connais moins et de voir ce que ces deux univers racontent l'un de l'autre quand ils se rencontrent. Donc on va commencer par voir, j'ai séparé ça en deux grands axes. Donc le premier qu'on va voir maintenant, ce que le métal, comment il est vu par le cinéma. Et ensuite, on ira s'intéresser à comment le cinéma est vu par le métal, aller voir le point de vue de chacun et chacune pour finalement venir croiser un petit peu les sources. De manière assez régulière, je commencerai par dire ça, le cinéma utilise le personnage du métalleux comme une figure souvent très précise, celle du marginal. Ce personnage, il est d'ailleurs très souvent masculin. Je pense que c'est pas anodin du tout, parce que ça dit beaucoup de la manière dont le métal est perçu par les personnes extérieures à cette culture. Le métalleux au cinéma, c'est souvent un jeune homme solitaire, un peu nerd, parfois geek, souvent geek, pas toujours très sociable. Quelqu'un qui a du mal à trouver sa place, qui apparaît comme incompris par le reste du monde. Et honnêtement, je pense qu'on n'a même pas besoin de citer un film précis pour que tout le monde voit exactement de quel archétype on parle. C'est un personnage qu'on a tous déjà croisé au moins une fois dans un film ou dans une série. Ce qui est intéressant, c'est justement que certains films sont partis de ce cliché-là pour essayer justement de le déconstruire, parce qu'au final, dans beaucoup de films centrés autour du métal, cette musique n'est pas présentée comme quelque chose qui enferme les personnages dans la marginalité. Au contraire, elle devient souvent ce qui leur permet de trouver une forme de liberté, une identité ou même une communauté. Alors évidemment, cette communauté, elle est souvent montrée comme quelque chose de très restreint, de très confidentiel. Le cinéma adore représenter le métal comme une musique ultra niche, écoutée par une poignée de personnes un peu isolées qui refusent d'écouter ce que tout le monde écoute. On tombe parfois dans des clichés énormes, presque le fameux « je veux pas écouter 1, 2, 3 »,« je veux pas écouter Taylor Swift comme tout le monde », »,« Taylor Swift nanani nanana ». Je donne souvent l'exemple de Taylor Swift pour parler des métalleux.
C'est normal.
Mais parce qu'il revient très souvent aussi dans les discours de métalleux un peu élitistes, si on peut dire ça comme ça. Alors malgré ça, certains films utilisent donc ce point de départ pour raconter quelque chose de beaucoup plus positif. C'est notamment le cas de Metal Lords qui raconte l'histoire de deux adolescents qui tentent de monter un groupe de métal pour participer à une compétition musicale dans leur lycée. Et derrière son côté teen movie très classique, le film parle surtout du besoin d'appartenance, du sentiment d'être incompris, du fait de trouver des personnes qui nous ressemblent. Et forcément, quand on parle de représentation du métal au cinéma, il faut aussi parler de Jack Black. Parce que c'est un acteur qui a énormément participé à populariser une image beaucoup plus positive du geek métalleux. C'est quelqu'un qui est lui-même profondément fan de métal et ça se ressent énormément dans les personnages qu'il joue. Là où beaucoup de films utilisent le métalleux comme un cliché de loser un peu ridicule, lui joue souvent des personnages pour qui la musique devient une manière de s'émanciper, de prendre confiance ou simplement de trouver une place dans le monde. Et bien avant ça, il y avait déjà This is Spinal Tap, qui reste probablement l'un des films les plus importants lorsqu'on parle de métal au cinéma. Le film prend la forme d'un faux documentaire qui suit un groupe fictif de heavy metal britannique pendant une tournée absolument catastrophique aux États-Unis. Et tout le principe du film, c'est de pousser les clichés du rock et du métal à l'extrême. Les égos immenses, les décors ridicules, les problèmes techniques absurdes, les musiciens complètement perdus dans leur démesure. Donc oui, le film se moque énormément des codes du hard rock et du métal, mais en même temps, il le fait avec une vraie affection. Et c'est probablement pour ça que le film est devenu culte jusque dans les milieux métalleux eux-mêmes, parce qu'on sent que derrière la caricature, il y a une vraie connaissance, une vraie fascination pour cet univers. Et finalement, ça pose une vraie question. Est-ce que ces films se moquent du métal ou est-ce qu'ils lui rendent hommage? Je pense que ça dépend surtout de ce qu'ils font, de leur personnage. Quand le métal sert uniquement à montrer quelqu'un comme un marginal raté, incapable de s'intégrer. Alors oui, on est dans la moquerie et ou dans la caricature, mais quand cette musique devient ce qui aide un personnage à avancer, à évoluer, à rencontrer des gens ou à trouver un sens à sa vie, alors là, on est déjà beaucoup plus proche de l'hommage. Mais évidemment, le cinéma ne représente pas uniquement le métal comme une musique de marginaux attachants ou de communautés alternatives. Très souvent aussi, le métal est traité comme quelque chose de dangereux, de transgressif, voire carrément menaçant. Ça, c'est quelque chose qui vient énormément du traitement médiatique que le métal a subi pendant des décennies, parce qu'il faut se rappeler qu'à partir des années 80 et surtout dans les années 90, il y avait une énorme panique morale autour du métal, avec notamment toute la panique satanique qui s'est développée à cette période-là. Beaucoup de médias ont commencé à présenter cette musique comme quelque chose de malsain, de violent, voire de dangereux pour la société. Et en parallèle de ça, certains mouvements ont eux-mêmes participé à construire cette image-là. C'est notamment le cas du black metal norvégien, on ne peut pas ne pas le citer, particulièrement de groupes comme Mayhem, qui ont énormément joué sur les symboles sataniques, la provocation, l'anti-religieux et une esthétique extrêmement radicale. Le problème, c'est qu'à ce moment, cette volonté de choquer et cette construction d'image ont dépassé le cadre artistique. C'est là qu'on arrive à Lords of Chaos, qui revient sur l'histoire du black metal norvégien, notamment sur la figure d'Oyste Narses, plus connu sous le nom de Ronimus, donc le guitariste de Mayhem. Le film retrace une période extrêmement sombre de cette scène musicale, marquée par des incendies d'église, des violences et même des meurtres. Et forcément, ce genre d'histoire nourrit énormément l'imaginaire médiatique autour du métal, comme musique dangereuse ou profondément dérangée. Ce qui est intéressant, c'est que le traitement du cinéma vient souvent directement du traitement médiatique qui existait déjà avant. Pendant très longtemps, les médias généralistes ont eu tendance à s'intéresser au métal, principalement lorsqu'il faisait peur, lorsqu'il choquait, lorsqu'il pouvait être associé à quelque chose de scandaleux. Cette vision-là a ensuite énormément influencé la manière dont le cinéma a représenté cette culture. Alors attention, ça ne veut pas dire que le cinéma ne parle du métal que lorsqu'il choque, et surtout ça ne veut pas dire que toute la scène métal est représentée par ces événements-là. Parce que le métal a toujours été une musique transgressive, mais à l'origine, cette transgression passe surtout par la provocation artistique, par le refus des normes, par une envie de questionner la société, la religion, la politique et les codes culturels dominants. C'est probablement aussi pour ça que cette musique a autant inquiété, dérangé les personnes extérieures à cette culture. Mais il est quand même important de faire une distinction très claire entre la provocation artistique, des actes qui eux, deviennent totalement inacceptables. C'est là que le sujet devient un petit peu complexe, parce qu'en réalité, parler de cette histoire-là, c'est important. Parler des dérives du black metal norvégien, des violences, des crimes qui ont existé à cette époque, c'est nécessaire. C'est des choses qu'il ne faut ni oublier, ni romantiser. En revanche, le problème arrive quand le traitement devient uniquement sensationnaliste, quand toute une culture musicale se retrouve résumée à ces éléments les plus extrêmes, les plus choquants ou les plus violents. Finalement, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans la manière dont le cinéma traite le métal. Cette fascination permanente pour une musique perçue comme excessive, mais parce qu'elle l'est, hein. Mais dangereuse ou incontrôlable, je pense pas que ce soit le cas, pas toujours. Alors que dans la réalité, en fait, la majorité, l'immense majorité de la scène métal fonctionne, hein, surtout sur un principe de communauté, de passion musicale, d'espace, d'expression. Pour terminer quand même sur une petite note plus positive à propos du traitement du cinéma du métal, j'avais envie de parler de films qui s'intéressent aussi au métal comme une expérience profondément physique et sensorielle. Et probablement, l'un des exemples les plus marquants de ça, ces dernières années, c'est Sound of Metal. Le film raconte l'histoire de Ruben, batteur dans un duo de noise metal avec sa compagne Lou. Tous les deux traversent les États-Unis de concert en concert dans une vie entièrement construite autour du son, de la musique, de la scène et du mouvement. Mais après un concert, Ruben apprend qu'il est en train de perdre l'audition de manière irréversible et qu'il finira très rapidement par ne plus rien entendre du tout. À partir de ce moment-là, le film bascule complètement. Ruben rejoint alors un centre pour personnes sourdes et malentendantes, où il va devoir réapprendre à vivre, à communiquer et à habiter son corps autrement. Ce qui est très fort dans le film, c'est qu'on retrouve presque tous les détails, toutes les étapes d'un processus de deuil, le déni, la colère, les compromis, la dépression, puis progressivement une forme d'acceptation, parce qu'au fond, Sound of Metal ne parle pas seulement de surdité, le film parle surtout de ce qu'il se passe quand quelque chose qui structure entièrement notre identité disparaît brutalement. Et évidemment, perdre l'audition, c'est quelque chose de difficile pour n'importe qui. Mais dans le cas de Ruben, c'est encore plus violent parce que toute sa vie repose sur le son. Le métal et particulièrement les musiques lourdes ou extrêmes entretiennent un rapport extrêmement physique à la musique. On ne fait pas qu'écouter du métal, on le ressent. Il y a les vibrations, le volume, les basses, les sensations corporelles, l'impact presque physique, carrément physique en fait, du concert. Donc quand Ruben perd l'audition, c'est pas seulement la musique qu'il perd, c'est aussi une manière d'habiter le monde. Le film montre très bien comment il va devoir reconstruire un rapport complètement différent au corps et à la communication, apprendre à signer, apprendre à observer davantage, apprendre à écouter autrement, même sans entendre. Et ce qui rend le film encore plus universel, c'est qu'il ne donne presque aucun repère temporel précis. On ne sait jamais vraiment combien de temps passe entre les différentes étapes de son parcours. Et c'est ce qui rend le film encore plus universel. C'est ce qui... En fait, c'est très intelligent parce que ça rend... En fait, tout le monde ne vivra pas la perte de l'audition, mais énormément de personnes traverseront un jour une rupture brutale dans leur existence, la perte d'une capacité, d'une relation, d'un projet, d'un repère fondamental. Et ces parcours-là ne sont jamais linéaires. Certaines personnes mettent quelques mois à reconstruire quelque chose, d'autres plusieurs années et certains plusieurs décennies. Et le film laisse volontairement cette temporalité floue. Ça permet à énormément de gens de se reconnaître dans ce parcours. Finalement, c'est peut-être ça qui est le plus beau dans Sound of Metal. C'est pas un film qui utilise le métal comme un cliché ou comme un décor spectaculaire. C'est un film qui comprend profondément ce que représente le son pour des personnes qui vivent à travers la musique. À l'inverse, il y a des films qui ne parlent pas directement de métal, mais qui possèdent une esthétique profondément métal dans leur manière de raconter une histoire. C'est notamment le cas de Mad Max Fury Road. Alors, c'est pas un film sur le métal, mais pourtant, énormément de personnes issues de cette culture s'y reconnaissent immédiatement. Déjà parce que tout le film est excessif, les décors, les véhicules, les costumes, les flammes, le chaos permanent. On retrouve ce goût du spectaculaire et de la démesure qui existe forcément, évidemment, énormément dans le métal. Et surtout, le film entretient un rapport extrêmement physique au son et au rythme, la musique qui occupe une place énorme, notamment avec des sonorités très industrielles, très percussives, très agressives parfois. Puis évidemment, il y a cette image assez culte du Doof Warrior, ce guitariste suspendu à un camion au milieu du désert en train de jouer au lance-flammes pendant une course-poursuite apocalyptique. Et quelque part, cette image résume presque à elle seule la proximité entre le cinéma et le métal, quelque chose de totalement excessif, absurde, spectaculaire, mais qui fonctionne parfaitement parce que tout repose sur les sensations, l'énergie et l'impact physique immédiat.
On retrouve une scène d'ailleurs dans ce film où on voit un guitariste qui est sur un camion et qui fait ses meilleurs riffs. Et en fait, ce rythme, tout est une question de vitesse, ça ne s'arrête pas.
Oui.
Il n'y a pas de progressivité puisque c'est toujours, toujours au taquet.
Moi, je l'ai vu il y a très très longtemps, Mad Max Fury Road. Ouais. Il faudrait que je le re-regarde parce que ça fait vraiment longtemps. J'en garde vraiment un bon souvenir, mais un souvenir de... Un film intense, quoi.
Et alors, si je peux te conseiller, tu peux aussi regarder le préquel avant de regarder Fury Road. Il vient de sortir il y a quelques années.
Okay.
Et c'est très intéressant de voir un peu le... Okay. J'en dis pas plus, mais c'est très intéressant pour
la
backstory.
J'irai voir. Et donc, on va refermer un petit peu cette première étape qui était de traiter le point de vue du cinéma sur le métal. Et on va aller s'intéresser au point de vue du métal sur le cinéma. On va très rapidement revenir à de la musique, donc... Ne vous inquiétez pas. Le cinéma, s'il utilise régulièrement le métal dans ses films, le métal lui aussi s'inspire énormément du cinéma pour construire sa musique, ses univers et parfois même toute son identité. Probablement que l'exemple le plus parlant que je peux vous donner aujourd'hui, c'est Ice Nine Kills, parce que chez eux, le cinéma d'horreur, c'est pas juste une inspiration parmi d'autres, c'est littéralement le cœur du projet artistique du groupe. Il faut quand même préciser une chose, Ice Nine Kill n'est pas un groupe apparu soudainement avec ce concept-là. Le groupe existe depuis 2002 et a longtemps évolué dans la scène metalcore américaine avant de vraiment trouver son identité actuelle. Ils ont tourné avec énormément de groupes importants de la scène, participé notamment aux All-Star Tours en 2012 avec Suicide Silence, Thanksgiving Dance, Attila, Icy Stars. Ils ont tourné avec We Came As Romance, Chelsea Green. Et je vais arrêter d'en citer parce qu'il y en a vraiment plein. Donc on est sur un groupe qui est bien implanté dans la scène metalcore, mais pendant longtemps ils cherchaient encore une direction artistique vraiment forte, quelque chose qui leur corresponde vraiment, et cette identité-là ils vont la trouver en 2018 avec l'album The Silver Scream. Le concept du disque est simple, chaque morceau est inspiré d'un film d'horreur culte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout des références qui sont faites rapidement à la va-vite juste pour le clin d'œil et dire qu'on a un concept. Chez eux, tout est pensé autour du cinéma d'horreur. Les paroles reprennent des scènes, des citations de films, il y a des bruitages, des ambiances sonores, une dramaturgie extrêmement théâtrale, des clips très narratifs. Même la manière dont les morceaux sont construits rappelle parfois le rythme des films d'horreur eux-mêmes. Par exemple, Thank God It's Friday fait référence donc à Vendredi 13, Friday the 13th, je ne sais plus comment on dit le nom du film. Vendredi 13 ? On dit Vendredi 13, je crois.
Je pense. The 13,
c'est pas non, c'est
Friday,
non, oui, c'est
The 13.
Oui, je crois que c'est. Je crois que c'est Vendredi 13. C'est quelque chose comme ça, en tout cas. It is the end, c'est ça le nom du titre, qui fait donc référence à ça, puisque le nom de ça en anglais c'est It. Donc It is the end, ça fonctionnait bien. Puis Stabbing in the Dark, entre autres, qui reprend l'univers d'Halloween. Et on va écouter tout à l'heure Stabbing in the Dark, parce que Halloween, moi, c'est mon film d'horreur préféré, donc le choix était assez évident. Le groupe, il a ensuite continué avec The Silver Scream 2, Welcome to Horrorwood, qui pousse encore plus loin cette idée d'un univers entièrement construit autour du métal d'horreur, autour du cinéma d'horreur, pardon, en se concentrant sur la scène hollywoodienne cette fois-ci. Voilà, je vais y arriver. Finalement, ce qui rend un peu Ice Nine Kill aussi intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de faire des chansons qui parlent de films, ils ont construit toute leur identité artistique à partir du cinéma. Mais des groupes qui font référence au cinéma dans le métal, il y en a énormément. On peut notamment citer Motionless in White, qui a construit une très grande partie de son identité autour d'un univers gothique, horrifique, que ce soit dans leurs clips, leur direction artistique, leurs costumes ou leur mise en scène. Tout rappelle les codes du cinéma d'horreur américain. Il y a quelque chose de très, très théâtral chez eux dans la manière de construire leurs images, leurs personnages et même parfois leurs chansons. Et en fait, leur esthétique est tellement marquée que même sans connaître le groupe, on comprend immédiatement les références visuelles qu'ils mobilisent. Et c'est là qu'on commence à écouter de la musique, puisque je vous propose d'écouter un extrait de Code, qui est un de mes titres préférés de Motionless in White, qui est issu de l'album Disguise, qui est sorti en 2019. Of one mind, of one soul, we unite to ride a cloud. So bleed your message at the town, 'cause we don't have to feel alone. Feel alone. Let's get this fire started. Let's get this fire started. On peut donc également citer Whitechapel, qui développe eux aussi un univers extrêmement sombre, très narratif, très visuel. Leur musique, leur esthétique et leur ambiance se rapprochent énormément du cinéma d'horreur, avec quelque chose de très oppressant, très violent parfois, mais aussi très très immersif. Et honnêtement, beaucoup de morceaux de Whitechapel pourraient vraiment fonctionner comme bande-son de films d'horreur, tant leur musique construit des atmosphères fortes et cinématographiques. Je vous propose d'écouter un extrait d'un des titres qui est sorti sur leur dernier album Hymn in Dissonance, sorti en 2025. Il s'agit du titre Hate Cult Ritual. Our mother's foundation and yours, as it is. Et donc pour terminer cette partie consacrée au cinéma d'horreur dans le métal, je vous propose d'écouter le titre que je vous ai déjà teasé il y a quelques minutes. Il s'agit de Stabbing in the Dark d'Eisenkill, donc directement inspiré de la série de films Halloween. C'est parti. Calculated silence, captivated by the violence I replay. 15 years ago today, oh, an evil evolution will bring a feeble institution to its knees. Oh, doctor, can't you see that when the hands of fate form a midnight hour behind this mask of hate, I done the devil's power. These are the devil's eyes. The devil's eyes. C'était donc Stabbing in the Dark, in the Dark, Dice Nine Kills. On va pouvoir continuer un petit peu ce passage sur le métal et sa vision du cinéma. Et on va parler un petit peu du moment où le métal va, au-delà de parler du cinéma, va venir emprunter ses codes, puisqu'il s'inspire énormément de l'esthétique du cinéma. On a déjà commencé à le voir un petit peu dans la partie précédente, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de métal qui pensent plus uniquement leurs chansons, ils pensent aussi leur image, leurs clips, leurs univers visuels, presque comme des œuvres cinématographiques. Parce qu'à l'heure actuelle, énormément de clips dans le métal ressemblent davantage à des courts-métrages qu'à de simples vidéos musicales. Il y a un énorme travail sur la photographie, la lumière, les couleurs, les décors, les personnages, l'ambiance ou encore la narration. Et beaucoup de groupes extrêmement populaires aujourd'hui le sont aussi parce qu'ils ont compris l'importance de construire un univers visuel fort autour de leur musique. On peut évidemment citer Ghost, qui développe un univers extrêmement théâtral, dramatique et cinématographique, autant dans ses clips que dans sa scénographie sur scène. Tout chez eux rappelle le cinéma d'horreur, les films occultes, les vieux films fantastiques, avec un sens du personnage et de la mise en scène qui est extrêmement travaillé. Et je vous propose d'écouter un extrait du titre Danse Macabre. Dans un registre très différent, Sleep Token fonctionne lui aussi énormément comme un projet narratif et visuel. Toute l'esthétique du groupe, son lore, ses personnages, sa manière de raconter, ses émotions donnent l'impression d'assister à un récit presque mythologique, comme si chaque album racontait un nouveau chapitre d'une histoire beaucoup plus grande. C'est carrément ça en fait. Et dans ce sens-là, leur musique fonctionne presque comme une bande originale de films émotionnels ou fantastiques. Avatar le fait aussi énormément. Ce qui est intéressant chez eux, c'est que chaque album possède une identité très différente, presque comme des épisodes distincts d'une même œuvre. Leurs univers changent, les ambiances changent, les directions artistiques changent, mais tout reste connecté par cette manière très théâtrale et très visuelle de construire leur musique. Évidemment, c'est le moment où on commence à parler
d'Elon Marx.
Absolument, oui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la qualité de leurs clips, et je le dis pas seulement parce que je suis une énorme fan, mais la qualité de leurs clips, leur manière de travailler l'image sont impressionnantes. Leurs univers visuels empruntent énormément à l'esthétique des années 90, du début des années 2000, avec parfois des références qui rappellent même des séries un petit peu comme Stranger Things. On peut facilement s'imaginer que les membres du groupe ont beaucoup aimé cette série-là. Dans le clip de Creature, par exemple, on retrouve des diners américains, des créatures issues d'univers parallèles, toute une ambiance fantastique, horrifique, très marquée. Le clip de Blood Red mélange lui énormément de techniques visuelles, notamment de l'animation, avec un résultat vraiment très réussi. Et je vous propose, pour le plaisir des oreilles, d'écouter un extrait de Creature. Et finalement, tout ça, ça montre quelque chose d'assez important sur le métal moderne. Aujourd'hui, faire de la bonne musique ne suffit plus forcément, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais pour des fois, ça donne des résultats qui sont quand même plutôt intéressants. Il faut aujourd'hui savoir construire un univers, raconter quelque chose visuellement, proposer une identité forte. Et des groupes comme Ghost, Sleep Token, Avatar ou Landmarks, pour ne parler que de ceux qu'on a cités aujourd'hui, ont parfaitement compris ça. Leur succès vient évidemment de leur musique, mais aussi de leur capacité à construire des univers cohérents, immersifs, profondément visuels, souvent très inspirés du langage du cinéma. Et enfin, pour terminer cette partie, on va écouter l'intégralité de Caramel, de Sleep Token. C'est le premier single de l'album Even in Arcadia qui est sorti en 2025. Et pour moi, c'est l'album du groupe que j'ai le moins aimé, qui m'a le moins convaincue. Mais Caramel, ça reste probablement un de mes mon morceau préféré, en fait, de Sleep Token. Comme quoi, parfois, un morceau qu'on préfère se trouve justement sur l'album auquel on dans lequel on s'attendait le moins à le trouver. C'est un peu paradoxal, mais c'est aussi intéressant. On écoute ça tout de suite. À tout de suite. On écoute.
For the good times, right foot in the roses, left foot on the landmine. I'm not gonna be there, tripping on the grapevine. They can sing the words while I cry into the baseline. Wear me out like Prada, devil in my detail. I swear it's getting harder, even just to exhale.
Stick to me like you're a mad girl. Walk beside me till you frustration. I'll take what I'm given. The deepest incisions. I thought I got better, but maybe I didn't.
C'était Caramel de Sleep Token sur Syllab dans Kill et Vilaine. J'espère que vous allez toujours bien. On va pouvoir continuer donc avec la dernière sous-partie de la deuxième grande partie dédiée donc au métal et au cinéma. Et on va parler un petit peu de cette idée de métal comme cinéma pour les oreilles. Je trouvais que c'était joliment dit. Parce que cette relation entre le cinéma et le métal va encore plus loin que les références, les clips ou les univers visuels, parce qu'il existe aussi dans le métal toute une dimension qui est très très souvent qualifiée de métal cinématographique, de par la manière de composer la musique. D'ailleurs, on parle pour désigner certains groupes, certains genres, le métal cinématographique va énormément ressortir. Et notamment dans des genres qui accordent énormément d'importance aux ambiances, aux montées en tension, aux émotions, au développement des morceaux. C'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans le métal progressif ou encore dans le post-métal. Comme on en parlait déjà dans l'épisode consacré au post-métal, l'épisode qui s'appelle Metal Exé, si jamais ça peut intéresser certaines personnes, ce sont des genres qui prennent énormément de temps pour construire des atmosphères, ouvrir des chapitres, développer des idées musicales sur la durée, plutôt que d'aller immédiatement chercher quelque chose de plus frontal, de plus efficace tout de suite. Et dans ce sens-là, beaucoup de groupes donnent presque l'impression de composer des bandes de films, des bandes originales de films. On peut notamment citer un groupe que j'ai cité déjà un sacré paquet de fois dans cette émission. Il s'agit de Clone et de leur manière de traiter le métal progressif d'une manière profondément cinéma-friendly, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de très immersif dans leurs morceaux, dans leur manière de faire évoluer les émotions, les textures sonores ou les ambiances. On a parfois réellement l'impression d'écouter une BO de film, tant leur musique crée des images mentales immédiatement, et c'est notamment le cas du Grand Voyage sorti en 2019. Et je vous propose, pour illustrer cette approche-là, de faire un petit détour par Sealed, qui est donc un titre issu du Grand Voyage, mais cette fois-ci on va écouter la version qui est sortie dans leur album The Live Alive, ça porte bien son nom, qui est sorti en 2021. Et donc, tout ça, ça rejoint aussi toute la question des albums concept, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans nos émissions, notamment dans celle qui est consacrée au métal progressif, parce qu'un album concept, au fond, fonctionne énormément comme un film. L'idée, c'est de construire une œuvre entière autour d'un même thème, d'une même narration ou d'une même ambiance. Et parfois, ça va même jusque dans la manière dont les morceaux s'enchaînent, avec des transitions pensées pour donner l'impression d'un récit continu. Ça, c'est quelque chose de profondément lié au cinéma, cette idée de raconter une histoire qui dépasse chaque scène prise individuellement. Aujourd'hui, d'ailleurs, même en dehors des albums concept, beaucoup de groupes réfléchissent leur tracklist comme des parcours émotionnels ou narratifs. Les chansons ne sont plus seulement placées dans un ordre arbitraire, elles viennent raconter quelque chose ensemble. Et forcément, là encore, le lien avec le cinéma, les liens avec le cinéma deviennent très évidents. On peut aussi citer Vola, qui développe énormément cette dimension atmosphérique, émotionnelle dans sa musique. Leur manière de construire les morceaux, de faire évoluer les textures et de créer des ambiances donne souvent l'impression d'être plongé dans un univers très visuel et très immersif. Et justement, on reste dans cette idée avec un extrait de « I don't know how we got here » tiré de l'album « Friend of a Phantom » sorti en 2024. Ça y est, je me souviens que quand j'ai fait le montage, j'ai eu beaucoup trop mal au cœur de couper la fin de la chanson. Je me suis dit, bon, on va écouter la fin. Mais au final, on est tellement dans les temps que je me dis que j'aurais pu la mettre en entière. Ça aurait été un choix beaucoup plus intelligent que de couper une minute de la chanson. C'est bête, c'est pas grave. On terminera donc en disant qu'il y a tout un pan du métal qui pousse cette dimension aussi dans la manière d'être épique, orchestrale, notamment dans le métal symphonique, dans le power metal. Le power metal, je vais pas trop en parler parce que c'est vrai que c'est un genre que j'affectionne pas énormément et donc j'ai pas une connaissance assez poussée pour pouvoir me permettre d'en parler longuement. Mais le métal symphonique, j'ai un petit peu plus de connaissances. L'utilisation d'orchestration, de chœurs, d'arrangements symphoniques, de grandes montées émotionnelles rappelle souvent énormément les bandes originales de films épiques ou fantastiques. Et comme à chaque fois que je parle de métal symphonique, on va parler d'Epica, qui est un exemple particulièrement marquant. Alors, je suis quand même assez sélective sur le métal symphonique, je suis loin d'être fan de tout. Mais Epica, ça fait vraiment partie des groupes qui me touchent énormément dans leur manière de construire leur musique. Leur album Aspiral, qui est sorti en 2025, il est d'ailleurs un très bon exemple de cette approche-là. Des morceaux, les quatre singles, globalement, on peut les citer, Arcana, Cross the Divide, Fight to Survive et Time, qui sont des titres qui donnent vraiment cette impression d'écouter une œuvre pensée comme une expérience narrative complète, presque comme un film sonore. Et je vous propose, pour illustrer tout ça, d'écouter un extrait de Cross the Divide. Et finalement, c'est peut-être ça qui résume le mieux la relation entre le cinéma et le métal. Ce sont deux arts qui créent très facilement des images mentales. Le métal est une musique qui fonctionne énormément par projection émotionnelle. Très vite, les morceaux font naître des paysages, des scènes, des couleurs, des univers ou des sensations dans l'esprit des personnes qui les écoutent. Et cette dimension-là est particulièrement forte dans des genres qui travaillent beaucoup la catharsis, les émotions fortes, l'épique, la peur, la colère, la reconstruction, la liberté ou encore les imaginaires fantastiques et dystopiques qu'on n'a pas vraiment développés aujourd'hui mais parce que j'ai pas forcément eu le temps de le faire. Puis parce que les imaginaires fantastiques et dystopiques, on en a parlé dans pas mal d'épisodes maintenant, donc notamment l'épisode sur le lore que je vous invite à aller réécouter si jamais ça vous intéresse. Et finalement, plus on a avancé dans cette émission, plus les liens entre le cinéma et le métal sont devenus évidents. parce qu'au fond, ces deux arts racontent souvent exactement les mêmes choses, des émotions fortes, des récits de transformation, des peurs, des colères, des envies de liberté, des mondes imaginaires ou des formes de résistance. Et honnêtement, même si je savais déjà avant cette émission qu'il existait énormément de passerelles entre le métal et le cinéma, j'ai quand même été assez impressionnée de voir à quel point on pouvait créer des connexions entre quasiment tous les aspects de ces deux univers. Et c'est aussi pour ça que j'ai énormément pris de plaisir à préparer cette émission, parce que même si le cinéma, c'est pas forcément le domaine dans lequel je me connais le mieux, j'ai mal écrit ma phrase, c'est pas grave. Ça m'a permis en tout cas d'aller explorer quelque chose de nouveau, découvrir plein de choses très intéressantes, et surtout de voir à quel point le métal peut dialoguer avec énormément d'autres formes d'art. Finalement, c'est aussi ça que j'aime dans cette émission, parfois se lancer des défis, partir sur des sujets qui paraissent un peu intimidants au départ, et puis finir par découvrir des univers absolument passionnants. C'est tout pour moi, en tout cas pour cette petite partie. Ça t'a plu, Pierre ? C'était bien.
C'était très... C'était très intéressant, oui.
Et donc, avant de passer au jeu, j'avais une petite information à vous donner, qui dure 2 pages, je crois. On approche doucement de la fin de la saison de Kill Evil Hen, et honnêtement, moi, c'est une année que j'ai énormément aimée. Cette émission, c'est vraiment quelque chose qui me porte au quotidien. C'est un espace dans lequel je prends énormément de plaisir à travailler, à apprendre, à partager et aussi à rencontrer des personnes super, super chouettes, très formidables, je ne sais pas comment le dire. Et puis j'ai envie de remercier un petit peu les personnes avec qui je partage cette aventure. Et puis de commencer par Pierre, puisque tu es la seule personne présente. Merci.
Ça me touche. En vrai, j'ai rencontré, je parle aussi de Tristan, j'ai rencontré deux personnes incroyables qui aiment la musique, qui aiment leur univers et qui sont prêts à les partager et à prendre de l'énergie de leur temps pour faire découvrir aux gens et découvrir d'eux-mêmes de nouveaux aspects de ce milieu-là.
Moi, ça m'a permis de découvrir plein de choses aussi. Hein. J'ai été creuser des univers où a priori, j'aurais pas été sinon. Et en fait, j'ai découvert plein d'artistes absolument merveilleux qui font partie de ma playlist au quotidien aujourd'hui. Donc... Je ne sais pas si Tristan nous écoute, mais en tout cas, s'il est là, je voulais lui dire que je le remercie aussi. On a passé énormément de temps à préparer, à construire ces émissions. Et on a vraiment créé une relation de confiance autour de ce projet-là, à partager énormément de moments très drôles, un peu chaotiques aussi parfois, il faut le dire. Et je peux parler notamment de la couverture du concert de Léprousse en novembre. Il nous arrivait quelques anecdotes assez mémorables qu'on racontera peut-être dans la dernière émission de la saison. Une petite pensée pour Syllab aussi de manière générale, avec qui j'ai créé énormément de liens cette année, avec qui j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler. C'est une année pendant laquelle j'ai énormément appris, autant humainement que dans ma manière de construire cette émission, de parler à l'antenne, de préparer des sujets, travailler en équipe, tout ça, tout ça. On peut vous annoncer que la dernière émission de cette saison, elle aura lieu le 30 juin, donc c'est le dernier jour de juin et ça tombe un mardi. On ne pouvait pas faire mieux. Et pour cette dernière émission, on est en train de préparer tranquillement quelque chose d'un petit peu spécial. On va essayer de faire venir Tristan.
Ouais, on va essayer de le faire sortir de ses... on sait qu'il bosse,
ses examens seront passés à ce moment-là, donc...
D'accord, là, il n'a aucune raison.
Il n'a aucune raison de ne pas être là. Et donc, du coup, on va se faire un petit best-of de la saison avec des anecdotes, des souvenirs, des petits extraits des bourdes d'émissions qu'on a pu faire. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Donc l'idée, c'est un petit peu de terminer cette saison dans une ambiance plus légère, de revenir un petit peu sur tout ce qu'on a vécu ensemble cette année, mais aussi avec vous, les auditeurs, que je remercie évidemment. Il y en a, je le sais, ils sont là toutes les semaines, donc c'est vraiment gratifiant de savoir que les gens déjà écoutent et puis que les gens reviennent. Voilà. Et puis, moi, je ne sais pas pour toi, Pierre, moi, je repars pour un an la saison prochaine.
Avec plaisir.
Et c'est super.
Avec plaisir.
Et puis, Tristan, je ne peux pas le dire... Je peux pas le dire pour lui. J'espère qu'il sera avec nous. J'espère vraiment qu'il sera avec nous.
Peut-être qu'on aura trouvé de nouvelles personnalités.
J'y arrive justement. On cherche toujours de nouvelles personnes pour rejoindre l'équipe de Kill Evil Hen. Si jamais ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Instagram Kill Evil Hen. C'est tout simple. Ou alors par mail killevilhen.com. Pas besoin d'avoir une encyclopédie du métal dans la tête pour venir faire de la radio avec nous. Même moi, je ne considère pas avoir ce niveau de connaissance-là. Et pourtant, je sais que ma connaissance est assez large, sans vouloir non plus... Je sais que j'ai un petit peu de bagage.
Alors, moi qui n'ai pas la patte de manuscrit de roman, vous pouvez quand même... N'ayez pas peur, vous pouvez quand même apporter votre côté.
Ah, mais justement, parce que moi, j'ai ma manière d'écrire, mais... Des fois aussi, j'ai fait des choses chaotiques à l'antenne et c'était pas mauvais pour autant. C'est... Donc,
c'est aussi de l'essai. Enfin, on est une radio amateur, c'est normal de se planter, c'est normal de... Moi, je considère la radio comme un médium qui permet d'apprendre plein de choses différentes. Oui.
Et puis moi, je les vois comme un moyen de prendre énormément de plaisir aussi, de venir toutes les semaines, de voir l'équipe toutes les semaines, de rigoler, d'avoir... C'est un loisir, en fait, au-delà d'être une activité... d'être une activité qui prend du temps,
peut-être
certes.
Peut-être un peu chronophage,
oui. Oui, oui, oui. Et puis, il n'y a pas besoin de venir non plus pour présenter 2 heures d'émission comme moi, je peux le faire, si jamais vous avez envie de venir pour une chronique, pour parler 10 minutes à l'antenne et puis rentrer chez vous. Enfin, il y a vraiment...
Faire
de l'interaction.
Faire un dialogue.
C'est relativement ouvert. On est plutôt à l'écoute de toutes les propositions qu'on pourrait nous faire. Ah, on est accueillant, des fois on emmène des chouquettes en plus. Parce qu'au final, je l'ai conclu comme ça sur mon texte. L'émission, c'est avant tout une aventure humaine et c'est une expérience que je ne peux que recommander. Voilà. Maintenant qu'on a fait cette petite interlude, on va passer au jeu.
Eh oui.
C'est parti.
Dans les terres maudites, tradition a survécu à l'enfer. La galette saucisse. 10.
Ce jingle, il me fait toujours un peu rire parce que je sais que quand je l'ai exporté la première fois, je me suis dit « Bon, c'est pas parfait, mais je repasserai dessus. » Et en fait, dans ma tête, c'est devenu iconique. En fait, il pourrait pas exister sous une autre forme.
Il n'y a pas besoin qu'il soit parfait.
C'est le fait qu'il soit imparfait qui fait qu'il devient parfait. Ouais. Je le trouve hilarant.
Vu que tu parles de cinéma, on retrouve beaucoup de films qui sont encore récents, qui font exprès de rajouter du grain, histoire de donner une imperfection et de donner une valeur ajoutée à l'œuvre. Donc, pour moi, ça me va très bien. Ça me fait vraiment Black Metal sorti de...
Ouais.
C'est enregistré du sous-sol.
C'est sorti des
gens.
C'est vraiment enregistré dans le fin fond de la cave.
Ouais, c'est ça.
Le jeu de ce soir... Alors, il y a deux formes de jeu dans un jeu. À la fois, il y a le côté essayer de trouver le titre, mais il y a aussi trouver est-ce que c'est dans ma playlist ?
Ok.
Est-ce que c'est un truc qu'au quotidien, j'écoute ?
D'accord.
On va voir si tu as cerné le personnage.
Ouais. Bon, normalement, je te
normalement,
connais.
Ça devrait aller. on écoute le premier extrait ?
Allez, c'est parti.
C'est parti. Alors
déjà, je te vois à fond en train d'écouter
peut-être
la musique.
Que je fais semblant d'être à fond sur tous les titres. Peut-être que je fais semblant d'être à fond sur tous les titres.
Pour moi, elle est dans ta playlist.
Elle est dans ma playlist.
J'aurais pas dû dire ça dès le début, j'aurais dû dire ça à la fin. J'aurais dû garder ça dans ma tête parce que du coup, là, tu vas rester de marbre en mode je fais semblant de ne pas aimer.
Est-ce que t'as le nom du groupe?
Non, j'ai pas
Est-ce que t'as une période?
Pour moi, c'est les années 2000.
Ça date de 2023.
Ah oui, d'accord.
Mais d'un groupe des années 2000.
C'est quoi le groupe ?
C'est Pierce the Veil.
Ah ouais, d'accord. Ouais,
et bon, le titre, c'est So Far So Fake, qui est issu de leur dernier album, donc sorti en 2023, The Jaws of Life. Et moi, je veux juste dire que Collide with the Sky, qui est un album 2 sorti en 2012, ça a rythmé mon adolescence. Pour moi, c'est un des meilleurs openings d'album, donc qui est composé de 2 titres, May This Noise Startle You in Your Sleep et Hell Above, qui... Au final, quand tu les écoutes à la suite, ils ne forment qu'un seul morceau. Mmh. C'est de la pure émotion. Moi, je suis très très fan. Et j'aimerais tellement qu'ils refassent un album pour pouvoir aller les voir en concert parce que je n'ai jamais eu l'occasion. J'aimerais tellement.
Pierce the Veil, est-ce que ça tourne aux États-Unis ou est-ce que ça sort des États-Unis ?
Ça sort des États-Unis, Pierce the Veil. Il me semble que pour The Jaws of Life, ils étaient passés au Bataclan.
Ok.
Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils étaient passés au Bataclan ou une salle de cette envergure-là, en tout cas.
Ok, bon, bah, on peut passer au.
On peut passer au deuxième titre. C'est parti. Ça, j'ai l'impression que t'as reconnu.
Oui, alors attends, j'ai même plus le groupe en tête, c'est les Allemands.
C'est des Allemands.
Et en fait, cette musique-là, je l'écoutais quand, à l'époque où j'allais en salle.
Ça m'étonne salle. Tellement pas.
Et attends, c'est Eskimo Callboy, mais ça s'appelle plus comme ça.
Ça s'appelle
c'est,
plus Eskimo Callboy.
Electrical Boy. Ouais. Voilà, c'est ça exactement.
Mais ils ont changé, ça a vraiment posé problème ce truc. Il s'appelait Eskimo Callboy. Et en fait, ils ont changé de nom parce qu'ils ont en fait compris que Eskimo c'était un terme qui était très péjoratif et qui en fait était très stigmatisant. Et il y a plein de gens qui ont été hyper vénères qui changent de nom en mode gna 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 gna. Mais pour une fois, il y a un groupe qui se rend compte qu'ils ont fait une grosse connerie, qui se corrige et ça plaît pas. Faut arrêter quoi.
Ah ouais, c'est à force d'être de plus en plus populaire que forcément il y a des gens qui ont pointé du doigt.
Ouais, mais le fait que eux réagissent et que ça plaise toujours pas, en fait t'as l'impression que peu importe ce qu'ils feront, les gens seront jamais contents.
Electric Callboy, en vrai ça passe, tu vois, c'est pas choquant.
Bah non, Electric
Callboy,
et ça convient
très bien avec ce qu'ils
font. Ça convient très bien
avec
ce qu'ils font,
c'est une partie d'électro de temps en temps.
Ouais, est-ce que c'est dans ma playlist?
Bien sûr.
C'est pas forcément dans ma playlist.
Ah si, si, si.
Non.
Ah,
Electric
ouais.
Callboy, ce titre là je l'ai pas, j'en ai
okay.
J'ai Rêverie, je crois, dans ma playlist, j'ai vérifié.
Okay.
Un titre qui est sorti l'année dernière qui pour le coup se démarque de leur discographie.
Ouais.
L'ambiance metalcore pour aller faire de l'aérobic. Je suis pas.
Ok, d'accord.
Alors ça passe bien si on m'en met dans une playlist, je vais pas forcément zapper. Pour autant, c'est pas mon énorme dada non plus.
Okay.
Qu'est-ce que tu cherches avec
non, j'essaie
clavier.
De retrouver le titre que j'aime bien, c'est Elevator Operator.
Ah oui.
Je l'adore ce morceau.
Mais il est assez récent, il me semble, celui-là.
Oui, je pense que c'est un des
l'année
plus
dernière.
Récents. L'année dernière, exactement.
Ouais, c'est bien ce que je me disais.
Le clip
ils ont sorti un cover de Still Waiting de Sum 41.
Oui.
Qui, pour le coup, est assez chouette.
Bah, ils ont réussi à garder la même patte en soi, ils ont
repris Still Waiting dans la forme, mais ils ont fait ce style très metalcore aérobique dessus. Quoi.
Ça marche très bien.
J'aime bien le nom de metalcore aérobique, je pense qu'on devrait le référencer ce nom-là.
On
continue
passe au suivant.
C'est parti.
Pour moi, c'est vraiment le néant complet. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Ça sort du registre déjà.
Ça sort du registre.
Non, je sais pas du tout.
C'est Portugal.
Portugal.
Ils ont un titre qui est super connu. Attends, je vais faire la recherche en direct. J'ai un doute sur le nom de la chanson et qui avait très 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 bien fonctionné à la radio à l'époque. Comment ça s'appelle ? Il était chouette en plus ce titre-là. Moi, je l'aimais bien. Ah oui, mais non, mais il me met top Portugal, c'est pas ce que je veux. Feel It Still.
Ça me parle pas du tout.
Alors attends,
je vois pas du
coupe
tout.
La musique, je vais en mettre avec mon téléphone.
Attention, on a de la vraie qualité.
Ah ouais, là, c'est de la qualité audio, premièrement.
Je peux trouver sur internet sinon.
Ah ouais, parce que là ça crache, c'est... hein. C'est un peu, c'est granuleux, mais granuleux quoi, comme on n'aime pas. Feel it, still. Feel it, sans le, still. S-T-I-2-L. Still. C'est vrai qu'on a, un accès à la musique sur ce PC, j'avais appris.
Avec des pubs en plus, c'est parfait à chaque fois. Hop là, ignoré.
Oh, bien vu. Ça, je crois que j'étais au lycée quand c'est sorti. Je crois que je l'écoutais. Ouais, c'est ça, 2017. Je l'écoutais dans le bus quand j'allais au lycée.
Ça me parle. Je pense que le refrain il va me percuter.
Ouais, c'est possible.
Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ok.
Et le nom de la chanson du coup que j'ai mis moi ce soir, pas celle-là, c'est What We Worry, qui est en featuring avec The Man.
Ok.
Est-ce que c'est dans ma playlist, Pierre, à ton avis?
Je pense, oui.
C'est dans ma playlist, effectivement, mais j'ai vendu Feel It Still, donc ça semblait assez... Ouais. Ça semblait assez logique. J'aime bien mettre des chansons dans ces blind tests qui sont pas du métal. Alors d'habitude, c'est plus pour faire rigoler, mais du coup, là, je me suis dit, est-ce qu'il va se douter que ça marche quand même? On passe à la suivante?
Yes.
C'est parti.
Pas du tout, mais en vrai le black metal mélodique, moi j'accroche toujours.
Ah ouais, mais c'est super efficace. Mais c'est
par contre le franchement faut
reconnaître c'est un nom du groupe du post black iconique en featuring avec un groupe du post black français absolument iconique aussi, dont on a déjà parlé.
Ça serait du genre Regarde les hommes tombés ou un truc.
C'est pas Regarde les hommes tombés. Plus classique que Regarde les hommes tomber.
Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, pour moi, ça ressemble à du Ghost Bass, mais.
C'est Harakiri for the Sky.
Ah oui, d'accord. Ok.
En featuring avec Alceste.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Et c'est le titre Sing for the Damage We've Done, qui est sur leur album Maher, qui est sorti en 2021, il me semble, qui est pour moi un des meilleurs albums de post-black de tous les temps.
Et c'est pour
j'en
ça
suis
fait
amoureuse, cette chanson je la veux en intraveineuse vraiment, et cet album se revend une fortune sur internet et ça m'énerve parce que j'aimerais vraiment l'avoir.
Et c'est pour ça qu'elle fait partie de ta playlist.
Oui, elle fait partie de ma playlist, absolument, c'est vrai, je t'ai pas laissé répondre, j'ai donné la réponse toute seule, je me suis fait cramer, ouais. Terrible. C'est terrible parce que tu vois ce titre-là, le nombre de fois où j'ai hésité à le diffuser, et en fait il est long, donc c'est un petit peu difficile à caler. J'avais réussi à le faire avec White World, mais c'est une gymnastique un peu sportive à faire quand même dans le rétro-planning d'une émission. On passe à la suite ?
Yes.
C'est parti. Somebody come and save me from this, make it in.
I feel like a monster.
can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun.
Alors, je sais toujours pas qu'est-ce que c'est. Moi, ça fait... Alors... Bizarrement, ça me fait penser à 7X,
ouais,
mais c'est
vrai.
Pas du tout ça.
Ça ressemble un peu à ça.
Alors, ça, ouais, ça a rien à voir avec le genre, mais ouais, je vois pas du tout où tu veux en venir avec cette histoire.
C'est du Skillet.
Ok, d'accord.
C'est le titre,
ouais,
Monster.
C'est un peu la même génération.
C'est pour moi la génération du métal de papa, tu vois. Nickelback, ces ouais. choses-là. C'est le truc okay. du daron célibataire de 45 piges, tu vois. C'est vraiment l'archétype du type qui écoute ça pour moi.
Ok. Est-ce que ça fait partie de ta playlist? Ça, je sais pas trop. Je dirais non. Parce que
non, ça de... en fait pas partie.
Voilà.
J'aime okay. bien des fois le métal de papa. Tu vois, Nickelback,
ouais. Ouais, ouais.
c'est l'album très culte de Nickelback qui se revend 40 centimes sur Internet, tellement tout le monde l'a. Je crois que c'est comme le best-of de Toto. Tout le monde a ça dans sa voiture, tu vois. Je crois que chez mes parents, il y a genre 4 exemplaires du best-of de Toto, tu vois. C'est un truc... À chaque fois qu'on en voit un en braderie, ouais, ouais. c'est que 50 centimes, on le prend, c'est rigolo. Mais là, c'est trop pour moi. une fois, de temps en temps, mais pas plus d'une fois par an. Après, sinon, c'est...
Okay.
Là, je l'ai écouté 3 fois pour faire le montage, j'en peux déjà plus. On termine ?
Vas-y.
C'est parti.
Je dois avoir une culture de merde vraiment parce que je sais pas.
Pas forcément.
Tout. En tout cas, c'est intéressant comme titre.
Oui.
Vraiment, ça a l'air vraiment cool.
Je ne peux que confirmer. Je me suis fait cramer encore une fois.
Ouais, voilà, ouais.
C'est le titre. C'est en plus, je pense, un de mes deux titres préférés où j'ai du mal à départager de ce groupe. C'est Mystery de Turnstile.
Ok.
Qui est du coup un titre qui est sorti du sur okay. Glow One, mais j'ai un pull Glow One.
Je comprends un peu plus l'introduction du coup et l'outro.
Ouais, ouais, ce ouais, c'est okay. le truc très hardcore avec des ambiances très planantes. C'est...
Ouais.
À part Turnstile, c'est difficile de citer. Il doit y en avoir d'autres, mais c'est vraiment l'évidence quand tu veux en citer un qui fait ça.
Bah, tu peux trouver ça dans le psyché.
Oui,
mais,
c'est
ouais,
vrai.
C'est un autre délire après.
Oui, mais je trouve ça génial. J'ai rien d'autre à dire. c'est merveilleux. Et le fait que tu aies eu besoin de toute la chanson quasiment pour essayer de trouver.
Fait,
moi, j'étais en mode continue, j'aime bien ce qui se passe. Ah bah, t'étais plus doué la semaine dernière.
Ah bah là, c'était vraiment de niche. Hein, parce que... Non, en vrai, c'est vraiment pas mon registre. Du coup, je pouvais
Oui. Mais la semaine dernière, je crois que c'est toi qui avais gagné. Ou alors
oui, c'était
toi non. Ou Yann.
C'était Yann qui avait
c'était
gagné.
C'était Yann, je crois, ouais. Mais t'étais
après.
Pas loin.
Ouais.
T'étais pas loin. Ouais. T'avais... En plus, tu voulais répondre la même chose que lui, je crois. Et t'avais
non,
juste répondu. T'avais
ah,
dit. Ah non, alors c'est lui qui avait dit je fais le beau jeu, je réponds l'inverse, comme
ça
on départage forcément.
Ouais.
Donc au final, il a gagné avec le beau jeu.
Ouais, c'est un musicien, c'est normal.
Non, mais il a gagné avec le beau jeu.
Hein. Pour ceux qui ne nous avaient pas écoutés, en fait, il fallait deviner
s'il y avait un breakdown,
ou pas. Et du coup, il y avait un suspense avec un arrêt où du coup, on écoutait la suite pour voir vraiment s'il y avait un breakdown. C'était très intéressant ce
c'était
jeu-là.
Super chouette, mais je pense que je vais le refaire plus souvent parce que je le trouve. Il faut les trouver. En fait, les chansons sans breakdown, il faut les trouver parce qu'il faut
clair,
trouver
ouais.
Le moment où tu as l'impression qu'il y a la montée et en fait, il n'y a rien derrière. Enfin, il n'y a rien. Pas de breakdown en tout cas. On arrive donc à la fin de cette émission. Merci énormément d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie. Un petit peu plus, quasiment presque pas plus en fait, parce qu'il est 22h30 tout pile. Comme souvent, finalement, on termine pas à l'heure. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre écoute cette semaine et puis semaine après semaine de toute façon. Merci aussi à Pierre d'avoir été là encore une fois ce soir à la technique.
Alors, est-ce que je peux me donner une petite liberté ?
Vas-y.
Après le générique de fin, j'aimerais bien passer à un morceau, un morceau que j'écoute en ce moment. C'est
bien
une
sûr.
Envie de partager. Ça s'appelle South Arcade. C'est du pop punk.
Ok.
Ça sort du registre un peu de l'émission, mais pourquoi pas.
Ah, mais carrément.
Voilà.
Et avant de se quitter quand même et puis d'écouter ton titre, on va introduire quelque chose de nouveau dans l'émission. Oh, waouh. Vous l'avez peut-être remarqué, les jingles, l'identité sonore de Kill et Vilaine, ça s'est un petit peu construit petit à petit au fil de l'année. Et puis, depuis quelques temps, il y avait un truc qui me gênait un petit peu. On a un générique de début, mais pas vraiment de générique de fin. Enfin, techniquement, il y en a un, mais en fait, c'est le même que le générique de début. Je trouvais ça un peu dommage de terminer l'émission sans avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé pour vraiment la clôturer. Donc ce soir, vous allez entendre ce nouveau générique de fin pour la toute première fois.
J'ai hâte d'écouter ça, parce que je ne me suis pas spoilé.
Ouais, et puis ça faisait plusieurs semaines que je réfléchissais à comment je peux tourner ça. Et cette semaine, j'ai eu un élan d'inspiration.
Donc,
en une heure, c'était fait.
Ah oui, d'accord. Je me suis demandé si tu t'étais
non,
pris
non,
la tête.
Non, bah, j'ai pris le temps de réfléchir et de me dire...
Je pense bien que vous avez...
On y a passé plusieurs heures avec Tristan, honnêtement.
Ouais.
Et puis, je l'ai retouché en plus en cours d'année parce qu'il ne me plaisait pas tout à fait encore. N'hésitez pas donc à nous faire des retours si vous le voulez sur ce jingle. On est forcément à l'écoute de vos retours. Ça fait toujours plaisir. Je sais que j'en reçois de temps en temps des retours. C'est souvent positif en plus, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à en faire. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, plutôt une bonne nuit, parce que du coup, l'heure est quand même assez avancée. La semaine prochaine, donc, je rappelle, pas de nouvelle émission, une rediffusion de notre émission de la semaine dernière avec Death Council. Et nous, on se retrouve la semaine suivante pour la couverture du Crazy Fest. Prenez soin de vous.
Et bonne soirée.
Salut.
Salut.
Ici, le service après-vente de Kill et Vilaine. Si votre dose de métal hebdomadaire vous semble insuffisante, ou si votre projet mérite d'être entendu, ou si vous travaillez dans l'ombre mais que votre taf vous semble intéressant, nous avons la solution pour la promo de votre musique, une suggestion ou même une proposition d'interview. Contactez notre service clientèle par mail killetvilaine@gmail.com, sur Instagram killetvilaine sans majuscule tout attaché, ou via le formulaire d'envoi sur la page de l'émission sur le site de Syllab. Kill et Vilaine, le service après-vente du métal, merci de votre confiance.
Landmarks.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Mais fais chier, c'est super pétasse.